l'écoute de RFI, il est 7h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et Léa Boutin-Rivière pour le journal. Bonjour Léa.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous.
En Chine, au Japon ou dans l'Union Européenne, partout, la même inquiétude. Donald Trump et ses droits de douane.
Et c'est pour calmer ses peurs au nom de l'UE que l'italienne Giorgia Meloni se rend aujourd'hui à Washington. Cette préoccupation se propage aussi sur le sol américain, dans les États, en contact rapproché avec le Canada ou le Mexique, vous l'entendrez. 4 ans et 1 700 000 morts il y a 50 ans, jour pour jour au Cambodge. Les Khmer Rouges faisaient main basse sur Phnom Penh et ouvraient l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire du pays. Dans ce journal également, les débats sur la dette haïtienne plus actuelle que jamais. Et en France, le festival du printemps de Bourges surprend avec une œuvre musicale en duo avec l'IA.
Une journée pour convaincre Giorgia Meloni est attendue à Washington ce jeudi.
A-t-elle la clé pour faire sauter le verrou douanier imposé par l'administration Trump? Les 27 espèrent en tout cas que la présidente du Conseil italien saura rouvrir le dialogue avec Washington. Car Giorgia Meloni est la première dirigeante européenne à rencontrer le président américain depuis le début de cette guerre commerciale. Et le respect mutuel que se portent les deux ultra-conservateurs pourrait faciliter la reprise de discussions apaisées. Mais si elle admire Donald Trump, la dirigeante italienne ne cache pas son dédain pour l'Union européenne. Blandine Hugonet, sa visite laisse donc l'opposition italienne circonspecte.
Avec sa casquette de négociatrice direction la Maison-Blanche, la dirigeante d'extrême droite italienne irrite ses opposants. Si officiellement les mots d'ordre de ce tête-à-tête avec Donald Trump sont dialogue et apaisement, et si le déplacement de Giorgia Meloni est coordonné par Bruxelles pour parler au nom des 27, la gauche italienne fustige une souverainiste qui fait cavalier seul, la patronne du Parti démocrate Elie Schlein.
Il ne faut pas que Trump pense pouvoir négocier pays par pays. On attend de notre gouvernement qu'il travaille dans l'intérêt commun européen, parce que seulement en tant qu'union de 500 millions d'habitants, nous aurons la force de réagir.
Débloquer les relations entre les deux continents, du moins convaincre d'ouvrir une table de négociation avec Bruxelles sur les droits de douane. Voilà l'objectif de ce rendez-vous avec Donald Trump pour Giorgia Meloni. C'est une des rares en Europe à entretenir un lien privilégié avec le conservateur américain. Elle va jouer les petits soldats qui se plient aux caprices de Donald Trump, rétorque le chef du mouvement 5 étoiles, Giuseppe Conte.
Meloni va à Washington pour prendre évidemment ses nouveaux ordres. Elle reviendra avec de nouvelles commandes trop chères d'armes et de gaz américains. Alors que l'Italie est au bord du gouffre, ce gouvernement manque de courage.
Alors que la botte, pas épargnée par le protectionnisme américain, risque gros, Giorgia Meloni pourrait proposer à Donald Trump de mettre les tarifs douaniers à zéro. Mais en Italie, parti et presse de gauche ne croient pas à un miracle de l'italienne à Washington. Blandine Hugonet, Rome, RFI.
Et l'administration Trump croise aussi le fer avec la Chine sur la question des surtaxes. L'ajout verbal entre les deux pays semble sans issue. Hier, Pékin a intimé aux États-Unis de cesser de menacer et de faire du chantage s'ils souhaitent véritablement résoudre le problème. L'Organisation mondiale du commerce, quant à elle, dit craindre un effondrement de plus de 80% du volume commercial entre la Chine et les États-Unis.
Et sur le sol américain aussi, les inquiétudes vont grandissant. Et
c'est pour cela que la Californie, État démocrate, a saisi la justice hier pour contester ses droits de douane. Trump n'a pas le pouvoir unilatéral de bouleverser radicalement le paysage économique du pays. C'est insurgé le procureur général californien qui estime que le président aurait dû solliciter l'accord du Congrès. La Californie, berceau de la tech internationale et premier producteur agricole du pays, est en première ligne de ses droits de douane et craint une dégringolade économique.
Et le Texas, lui aussi, est déjà remué par ses surtaxes.
L'État est voisin direct du Mexique. Une grande partie de la population est d'héritage latino. Les commerces à destination de ce public et qui vendent des produits venus du Mexique ou d'autres pays d'Amérique latine pâtissent donc directement des mesures mises en place par Donald Trump. Nathanaël Gitran.
Nous sommes en banlieue de Houston, dans un quartier très mexicain. Il y a énormément de commerces, de restaurants, d'entreprises ici qui font du commerce avec le Mexique.
Je m'appelle Gustavo Reyes. Ici, on vend des produits alimentaires, des fruits et légumes, de la viande, du fromage. On vend aussi beaucoup de produits typiquement mexicains, comme des bonbons. Je dirais que 85 à 90% de nos produits viennent du Mexique.
Alors forcément, les derniers mois ont été compliqués.
Le plus dur, c'est l'incertitude. Le président dit une chose et puis il en fait une autre. Un jour, on annonce 25% de droits de douane, le lendemain, c'est annulé. Et comme je vends en majorité des produits alimentaires périssables, je ne peux pas vraiment faire de stock.
Sur le parking du marché fermier, juste à côté, on rencontre Maria et son fils en train de mettre les courses de la semaine dans le coffre.
Some chile seco.
Du chili.
Pineapple.
Des ananas.
Des
feuilles de maïs.
La plupart de ces produits viennent du Mexique. Depuis le début de l'année, les prix ont augmenté, beaucoup augmenté.
Mais l'inflation est loin d'être le seul sujet de préoccupation de la communauté latino.
Il n'y a pas que les tarifs douaniers qui affectent le business, il y a aussi la politique migratoire. 95% de nos clients sont hispaniques. Pendant un moment, tout le monde avait peur. Plus personne n'osait sortir, tout était fermé. Ça a eu un effet très important.
Nathanaël Vitron, Houston, RFI.
Et l'autre gros dossier entre les mains du gouvernement américain, c'est la politique internationale. Le secrétaire d'État Marco Rubio est attendu aujourd'hui à Paris, où il doit rencontrer Emmanuel Macron pour évoquer les négociations en Ukraine. La situation dans la bande de Gaza devrait aussi être abordée, puisque l'émissaire spécial pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, sera présent.
La bande de Gaza, dont 30% ont été transformés en zone tampon.
C'est ce qu'a affirmé l'armée israélienne hier, qui a poursuivi ses frappes. D'après la défense civile du Hamas, 11 Palestiniens ont été tués dans ces bombardements. Et les autorités ont par ailleurs à nouveau exclu l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave.
C'était il y a 50 ans, jour pour jour, la chute de Phnom Penh au Cambodge.
Après des mois de combats, la capitale est tombée aux mains des Khmers rouges et de leur chef, Pol Pot, devenu dictateur sanguinaire à la tête d'un régime génocidaire. En 4 ans, le régime a fait 1 700 000 victimes, d'où l'importance de mémoriaux, y compris pour la diaspora. Un lieu de recueillement va ainsi être ouvert aujourd'hui en région parisienne. Sun Leitan est l'initiateur de ce projet intitulé Fragment Cache 50.
Pour ancrer une mémoire, il est important d'avoir un lieu et une date. Nous avions une date qui correspond en fait au 17 avril et nous voulions avoir un lieu pour rendre hommage aux victimes du régime de Pol Pot. Et nous avons choisi la ville de Logne, qui est une ville qui est assez symbolique puisque c'est une ville qui rassemble une grande partie de la diaspora cambodgienne. C'est une ville qui propose aussi un écrin de mémoire qui permet d'avoir un endroit assez paisible et tranquille pour pouvoir justement se recueillir. Il était important pour nous de pouvoir transmettre une histoire à nos enfants parce que nos parents, ils s'en vont au fur et à mesure. Les fragments vont devenir des poussières de mémoire. Et il est important pour nous de pouvoir acter que ce jour-là est un jour qui va les aider à peut-être libérer la parole pour qu'ils puissent en fait raconter leur histoire pour transmettre aux futures générations. C'est le projet de ma vie, c'est le projet d'une vie, c'est le projet aussi d'une génération. On est la génération qui a cette responsabilité d'être entre celles qui détient une histoire assez tragique mais qui est aussi très inspirante du fait du parcours et qui pourrait justement permettre aux futures générations de s'en inspirer parce que eux, la future génération aura à faire face à des défis qui seront inédits et en s'inspirant peut-être de ce qu'ont fait leurs ancêtres, ils pourront peut-être les surmonter.
Propos recueillis par Yelena Tomic.
RFI 6h08 à La Hayoune au Maroc où il sera bientôt possible de déposer une demande de visa pour la France.
C'est ce qu'a annoncé hier l'ambassade française. Mais attention, il ne s'agit pas d'une représentation diplomatique puisque La Hayoune se situe au Sahara occidental. C'est simplement une extension du service de recueil des demandes de visa via une entreprise privée. François Imferkataji.
Avec l'ouverture annoncée de cette antenne de l'entreprise privée TLS, qui assure la gestion de services consulaires pour le compte de l'État français, la France pourrait avoir trouvé une parade juridique tout en posant un acte diplomatique fort. Au Sahara occidental, la question de l'ouverture d'un consulat est délicate en raison de l'enjeu politique, diplomatique et juridique autour de ce territoire disputé et considéré comme non autonome par l'ONU, mais largement contrôlé par le Maroc. Depuis l'été dernier, la position de la France a évolué sur ce dossier. Paris se tient désormais pleinement aux côtés de Rabat et affirme que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce centre TLS ne constitue pas en soi une emprise diplomatique. Au mois de juillet dernier, la ministre de la Culture française Rachida Dati avait effectué une série de visites au Sahara occidental et avait annoncé l'ouverture d'une alliance française dans cette même ville de La Hayoune. Là aussi, il s'agit d'un centre culturel et non pas d'une représentation diplomatique directe. L'ambassadeur de France précise que cette extension de TLS pourrait être opérationnel dès le mois de mai prochain. François Imferkataji, Casablanca, RFI.
Et puis on l'a appris hier, Emmanuel Macron s'apprête à s'envoler pour l'océan Indien. Il sera lundi à Mayotte, point de départ d'un déplacement de 5 jours qui l'emmènera également à Maurice, à Madagascar et à La Réunion. Le président français s'exprimera aujourd'hui au sujet d'Haïti. Il devrait reconnaître une forme d'injustice initiale en référence aux dizaines de millions de francs réclamés par la France il y a 200 ans en paiement de l'indépendance haïtienne. Encore aujourd'hui, la population réclame réparation. Une problématique vivace dans plusieurs territoires français d'outre-mer, comme en Guyane, Emma Chevalier.
Faire reconnaître les droits des descendants d'esclaves, c'est le combat que mène Apa Mumia Makeba. Il préside le mouvement international pour les réparations en Guyane.
La France a du mal à assumer son histoire, en particulier celle de la réduction des Africains déportés en esclavage.
Depuis 2001 et la loi Taubira, la France reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais la création d'une commission censée évaluer les préjudices a rapidement été abandonnée, ce que dénonce Apa Mumia Makeba.
La mise en œuvre des réparations nécessite un fonds de compensation. Du point de vue juridique, les choses n'avancent pas.
En Guyane, un autre combat se mène en parallèle, celui des peuples autochtones pour la restitution des terres spoliées. Bénédicte Vjeke, représentante des chefs coutumiers.
Les six nations, nous avons travaillé dessus pour justement demander les 400 000 hectares à l'État. À l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de retour.
En 2017, lors des accords de Guyane, l'État s'était pourtant engagé à rétrocéder ses terres aux nations amérindiennes. Emma Chevalier, Cayenne, RFI.
En France, la belle saison est bien de retour. Il fait plus doux, il pleut moins. Et puis surtout, il y a un signe qui ne trompe pas, le retour des festivals.
Et le premier à ouvrir le bal, c'est le Printemps de Bourges, qui porte décidément bien son nom. L'événement a ouvert ses portes mardi et depuis, des milliers de personnes se pressent dans les ruelles médiévales de la ville pour découvrir les têtes d'affiches, des artistes encore confidentiels, mais aussi des créations originales et parfois audacieuses, comme ce concert du pianiste Édouard Ferlet en duo, et oui, avec l'intelligence artificielle. Edmond Sadaka.
C'était il y a 50 ans, un concert mythique de l'américain Keith Jarrett à l'Opéra de Cologne, concert immortalisé grâce à l'album de Köln Concert, écoulé à des millions d'exemplaires. Cette performance, Édouard Ferlet l'a revisité de manière singulière ici à Bourges. Il disposait de deux pianos sur scène, dont l'un commandé par l'intelligence artificielle.
Je commence à improviser et je demande à l'intelligence artificielle de poursuivre mon improvisation. Et du coup, moi, je vais répondre à mon tour, il va me répondre, etc. Donc après, on va jouer ensemble. Moi, quand j'improvise, c'est parce que j'ai entendu plein de choses que je ressors. La machine fonctionne pareil. Il faut donc lui donner des partitions et petit à petit, après, il va faire comme nous et rejouer en fonction de ce qu'il a entendu.
Cette création est la première d'une nouvelle collection baptisée Trans-Europa, imaginée par le Printemps de Bourges. L'objectif est de mettre en valeur les savoir-faire numériques des musiques actuelles en Europe. Edmond Sadaka, Bourges, RFI.
Les festivités dureront jusqu'à dimanche soir.
Et on vous parle des festivités du Printemps de Bourges sur RFI, mais aussi du FEMUA, 17e édition. C'est en ce moment, et Guillaume Thibault nous emmènera au cœur de l'événement en musique. Ce sera juste avant 10h. Merci Léa Boutin-Rivière, RFI. 7h13 à Paris, le début de 3 heures d'infos que l'on va passer ensemble et avec toute la rédaction au programme, chronique, reportage, invité ce matin. RFI reçoit Riti Pan, réalisateur et écrivain franco-cambodgien. Il sera avec nous à l'occasion du 50e anniversaire de l'arrivée au pouvoir des Khmers Rouges au Cambodge. A suivi la mort de près de 2 millions de personnes. Rendez-vous à 8h20 tout à l'heure. Autre invité, Pierre Boisselet, responsable des recherches sur les violences en RDC pour l'Institut Ebouteli. Son analyse ce matin sur la reprise en main par Fornia Simbe de la médiation pour l'Union africaine de la crise dans l'Est de la RDC. Ce matin, on parle également de Gaza, la ville ukrainienne de Dnipro, frappée par la Russie cette nuit. Aussi la visite de Giorgia Meloni à Washington, seule dirigeante européenne à avoir l'oreille du président américain. Également Haïti, aujourd'hui le bicentenaire de la dette de l'indépendance du pays. On y revient dans toutes nos éditions. À suivre aussi le sport. Ça y est, on connaît le dernier carré de la Ligue des champions de football. On en parle ce matin, Antoine Grenier. Également à suivre la revue de presse, nos revues de presse même. C'est RFI Matin. Bienvenue à vous. Et d'abord parlons du Pakistan où les autorités expulsent par la force des centaines de milliers d'Afghans prétextant des liens avec le terrorisme et le narcotrafic. Bonjour Eike Schmidt.
Bonjour Andréane.
Du service international d'RFI avec nous ce matin pour la Une en Asie. Alors Eike, il est vrai qu'une vague de violence submerge le Pakistan. Mardi, le groupe État islamique a encore revendiqué une attaque qui a tué 3 policiers au Baloutchistan dans le sud-ouest du pays.
Oui Andréane, encore encore une attaque meurtrière, une de plus. Les violences se multiplient aussi dans l'ouest du Pakistan à la frontière avec l'Afghanistan. Depuis le début de l'année, pas moins de 200 personnes ont été tuées par des groupes armés qui veulent renverser l'État et imposer la charia. Que ce soit l'État islamique ou bien les talibans pakistanais du Tehrik-i-Taliban, TTP, ces deux mouvements s'attaquent la plupart du temps aux forces de l'ordre, symbole de l'État. L'année dernière a été la plus meurtrière en 10 ans avec plus de 1600 morts.
Et comment expliquer cette recrudescence?
Eh bien, les violences ont augmenté depuis le retour des talibans en Afghanistan. À peine arrivés au pouvoir à Kaboul à l'été 2021, les nouveaux maîtres du pays ont libéré des prisons les membres du groupe TTP, les talibans pakistanais. Dans un rapport des Nations Unies, on peut lire que les autorités afghanes ont fourni aux terroristes des armes laissées sur place par les Américains et l'OTAN. Le groupe TTP compterait aujourd'hui autour de 6000 combattants entraînés sur le sol afghan et c'est de là qu'ils attaqueraient le Pakistan voisin, ce que Kaboul dément.
Et parmi les victimes de cette vague de violence, les Afghans qui auraient trouvé refuge au Pakistan.
C'est ça, Islamabad a lancé une campagne d'expulsion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, environ 3 millions d'Afghans vivent au Pakistan. Parmi eux, 800 000 ont vu leur carte de résidence annulée ce mois-ci. Depuis, l'Organisation internationale pour les migrations a recensé une forte hausse des retours. Ces deux dernières semaines, près de 60 000 Afghans ont traversé ainsi la frontière aux deux seuls points de passage. Ce sont Torkham et Spin Boldak. L'OIM accueille ses revenants dans 8 centres. Ils y reçoivent de la nourriture, des soins et un abri temporaire. Mais l'organisation onusienne s'inquiète du fait que ces Afghans revenants reviennent vers un pays où ils ont peu, voire rien à retrouver.
Les talibans afghans accusent le Pakistan d'utiliser ces migrants à des fins politiques et dénoncent des violences infligées à ces personnes.
Ces expulsions de masse ressemblent en effet fort à une opération de punition. Harcèlement, rackets et brimades se multiplient et souvent, les policiers ne laissent même pas le temps aux Afghans de ramasser leurs affaires ou bien des familles sont séparées. Pourtant, ces Afghans vivent parfois depuis des générations au Pakistan, mais il est quasiment impossible d'y obtenir la nationalité et les autorités ont donc les mains libres. Cette année, jusqu'à 1 600 000 Afghans pourraient être expulsés. Un retour à la case de départ dans des conditions très très difficiles. L'ONG Human Rights Watch redoute qu'ils soient persécutés par les talibans et rappelle qu'en Afghanistan, eh bien, l'économie et le système de santé sont à genoux. L'aide internationale est en chute libre.
Heike Schmidt avec nous pour la Une en Asie ce matin. Merci à vous Heike. RFI, l'information africaine dans une dizaine de minutes et à 8h, un nouveau journal international présenté par Gaëtan Plenet à la Une. Cet anniversaire aujourd'hui, nous sommes 50 ans, très exactement, après l'arrivée des Khmers Rouges à Phnom Penh au Cambodge, marquant leur prise du pouvoir, le début d'un régime de terreur dans le pays qui conduira au génocide de près d'un quart de la population. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Pour en parler ce matin, votre invité de 8h20 est le réalisateur et écrivain franco-cambodgien Ritipan.
Oui, Ritipan est un survivant. Dans les mois qui ont suivi l'arrivée des Khmers Rouges au pouvoir, toute sa famille a été tuée. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses nièces et ses neveux. Ce 17 avril 1975, il a 13 ans, quand les Khmers Rouges entrent dans la capitale cambodgienne. Par curiosité, il va dans le centre de la ville pour voir ses libérateurs qui ne sourient pas. En 4 ans, le génocide de Khmers Rouges va faire près de 2 millions de morts. Des victimes mortes de faim, de maladie, d'épuisement dans des camps de travail à la campagne ou assassinées dans des centres de torture. Depuis des années, inlassablement, Ritipan mène un travail de mémoire, notamment avec ses documentaires au cinéma. Sur RFI, ce matin, il raconte, il nous parle du poids d'avoir survécu et du pardon impossible.
A tout à l'heure Arnaud pour cet entretien, à suivre donc dans une heure sur RFI, 6h20, temps universel. C'est un mouvement inédit au sein de l'Église catholique, parti des États-Unis et qui aujourd'hui trouve un écho en Espagne, en Pologne, en Inde, mais aussi en France. Pendant toute la durée du carême, soit du 5 mars au 17 avril, les femmes paroissiennes étaient appelées à faire grève pour dénoncer un paradoxe. D'un côté, ces femmes bénévoles sont indispensables à la tenue des églises ou encore à la préparation des messes, et de l'autre, elles sont encore trop peu consultées dans les instances ecclésiastiques dirigées par des hommes. Baptiste Coulon s'est rendu à la rencontre de l'une d'entre elles dans le petit village de Saint-Sauvent en Charente-Maritime, dans l'ouest de la France.
Elle nous porte tous dans le village, elle veille sur nous, elle est imposante, elle est grande, elle est massive, elle a une présence et voilà, je suis bien avec elle.
Cela fait 40 ans que Florence est paroissienne dans l'église de Saint-Sauvent. 40 années d'un service essentiel pour maintenir quelques messes tous les ans.
Nous sommes des petites mains. Ça veut dire faire toutes les petites tâches, les petites besognes, les petites choses ennuyeuses aussi, mais qui sont nécessaires, quoi. Laver les nappes, les repasser, les mettre sur l'autel, faire les bouquets.
C'est un travail qui demande du temps, j'imagine, et de l'énergie.
Oui, mais on est, je ne suis pas toute seule. Hein. On a un bon groupe. Hein.
Mais ce sont souvent des femmes qui s'y collent.
Ce sont des femmes, absolument. On voudrait que ça change, ça c'est sûr. Moi, je soutiens totalement les femmes qui décident de dire partageons plus les tâches. Voilà.
Florence n'a pas officiellement rejoint le mouvement, contrairement à Alice, elle aussi paroissienne. Sur son sac, un petit pins, femme catholique en grève, elle dénonce l'absence de consultation dans les assemblées locales et les diocèses.
On vient nous demander notre avis de temps en temps ou des conseils, mais on ne peut pas voter, on ne peut pas choisir. Si un jour quelqu'un dans la hiérarchie est contre nous ou nous refuse quelque chose, on n'a pas de recours possible. Évidemment, les décisions se prennent entre clercs, entre prêtres. Quand on veut exprimer quelque chose, on est un petit peu relégué à l'arrière-boutique, quoi.
Dans ce village de 500 habitants et aux alentours, la grève est accueillie de façon contrastée par les fidèles.
Certains ont ri en disant « oui, c'est pas demain que vous changerez le monde ».
Partagez aussi les membres du clergé, à quelques exceptions.
Je m'appelle Gilles et je suis diacre depuis 11 ans.
Dans cette paroisse, Gilles Cavaro est peut-être l'un des rares à porter une autre parole, celle d'un homme d'église qui prône l'égalité.
Le Christ voulait que les femmes aient plus de place dans l'église et qu'actuellement l'église est plutôt en retrait par rapport à ce que lui a montré quand il a vécu sur cette terre. Je trouve que la place de la femme devrait être revisitée et ajustée au message évangélique.
Ce qui est drôle, c'est qu'avant la grève, j'aurais jamais pu penser vraiment que Gilles était pour cette ouverture. Ça fait plaisir d'entendre ça, mais c'est pas majoritaire.
Ouvrir le dialogue sur la place des femmes dans l'église, c'est tout l'intérêt de cette grève.
C'était une discussion qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'avoir et qu'on a pu avoir grâce à ce temps un peu de grève.
Même là, nous, dans la paroisse, on n'a pas beaucoup parlé. Hein, donc je pense que ce serait mieux qu'il y ait encore plus de discussions par rapport à ça. Hein. Pour moi, la question principale, c'est comment travailler mieux ensemble, marcher ensemble vers le Christ. Donc hommes et femmes ensemble, et c'est important.
Le dialogue ouvert, Gilles, Alice et Florence promettent de le poursuivre bientôt autour d'un repas.
Reportage de Baptiste Coulon, on passe à la question d'environnement. Avec vous Florent Guignard, comme chaque matin, bonjour.
Bonjour.
Vous nous parlez aujourd'hui d'une hécatombe largement passée sous silence, la mortalité routière chez les animaux. Combien sont tués sur les routes ?
Beaucoup, Andréane, beaucoup trop aujourd'hui cette chronique. C'est un peu la chronique des chiens écrasés, enfin de tous les vertébrés, c'est-à-dire qu'on n'a pas compté les vers de terre, ni les insectes collés au pare-brise des voitures. Bon, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins des insectes. Alors rien qu'en Europe, on estime que 194 millions d'oiseaux et 29 millions de mammifères sont tués chaque année sous les roues des voitures, des camions, beaucoup plus rarement sous les roues des vélos. Alors voici le témoignage de Benoît Thomé, il vit dans le sud-ouest de la France, il préside l'association de défense des animaux Animal Cross.
Chaque semaine en fait, sur mon trajet qui fait une vingtaine de kilomètres, en me rendant au travail, il y a des animaux morts. En fait, dès lors que vous quittez le centre des villes, vous en voyez partout, comme si c'était une fatalité. On s'est habitué à ce que des animaux meurent sous nos voitures. Et les routes soient devenues des cimetières pour les animaux.
Petit témoignage personnel, Andréane, il y a quelques semaines dans le sud de la France, sur un trajet le soir, seulement une quarantaine de kilomètres, j'ai vu 3 hérissons écrasés.
Et alors, autre témoignage, hein, juste après le cyclone à Mayotte, dans l'océan Indien, au début de cette année.
Avec une mortalité sans précédent pour les maquis et les lémuriens, comme nous le racontait Emilien Dautré de l'association Gepomaï.
Avant, pour traverser les routes, ils passaient par les arbres. Et maintenant, il n'y a plus d'arbres. Et donc maintenant, ils sont obligés de passer par le sol, par la route. On en voit tous les jours écrasés. Ça se compte par centaines. Hein. Et ça, c'est triste. Hein.
Les conséquences de la mortalité routière sont évidemment encore plus tragiques quand elles touchent des espèces déjà menacées.
Alors Florent, pourquoi est-ce qu'il y a autant de mortalité routière pour les animaux ?
Parce qu'il y a trop de routes. Sur la moitié du continent européen, où qu'on soit, on se trouve à moins d'un kilomètre et demi d'une route ou d'une voie ferrée. D'ailleurs, Andréane, est-ce que ce sont les animaux qui traversent les routes ou les routes qui traversent le territoire des animaux ? Écoutez ce qu'en dit Benoît Thomé de l'association Animal Cross.
Du point de vue des animaux, en fait... Quelque part, ils sont chez eux, en fait, et c'est la route qui vient traverser leur forêt, leur champ. La question des collisions avec la faune sauvage, c'est une vraie question même philosophique, en fait, sur le partage du territoire.
Et quel est le principal défaut de l'homme, Andréane ?
Il ne partage pas, voilà, je le vois.
Il est égoïste.
Il y a quand même une prise de conscience, hein, Florent, face à cette hécatombe.
Oui, c'est vrai, pour protéger les animaux des voitures, on construit ce qu'on appelle des écoducs, des viaducs écologiques, des ponts ou des tunnels. Les États-Unis construisent le plus grand au monde, en Californie, pour traverser 10 voies d'autoroute. Nous, on était allé voir un ouvrage beaucoup plus modeste, sous une petite route de France, avec Ingrid Marchand de la LPO. Un ouvrage pour protéger les visons en danger critique d'extinction.
Alors là, on est sur une route qui passe au milieu des marais de Rochefort et où on a eu deux individus de visons d'Europe qui ont été retrouvés écrasés. Donc il est important de pouvoir agir sur cette menace. On a ici un ponton flottant. C'est un cheminement qui passe sous le pont pour permettre à l'individu d'éviter quand même de passer sur la route.
On construit aussi des écuducs pour les écureuils ou des crapauducs pour les amphibiens. On n'hésite plus non plus désormais à couper la route pendant quelques jours pour permettre aux grenouilles de traverser à la fin de l'hiver, rejoindre une mare ou un étang où elles vont se reproduire. En Normandie, il y a quelques semaines, on a ainsi évité la mort de 2000 amphibiens. Alors c'est peut-être une goutte d'eau, 2000 c'est peu, mais ça promet quand même beaucoup de naissances.
Merci Florent Guignard, c'était la question d'environnement sur RFI. Tout de suite, de la musique, juste avant le retour de l'info, c'est sur notre playlist. Pierrot, Facchini et Balaké Sissoko, la magie d'une guitare et d'une cora sur le titre If Nothing Is Real.
He caught me whispering to myself, finding somewhere that I can be. For something that I see in you, for someone that you would see in me. If nothing is real, then nothing is true. If nothing is real, till he grew cold. With my own eyes saw the embers fade. Castles we built made of sand, with the rain now they washed away. And nothing is real,
Nothing is Real de Pierce Facchini et Balaké Sissoko. C'est sur la playlist RFI de ce mois d'avril. Belle journée. Bon réveil à vous sur la radio du monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
allergies, une part croissante de la population mondiale est concernée.
Demain.
Question de femmes, question de parents, le paludisme chez les enfants.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. 8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Aujourd'hui,
si le matin est un temps que nous partageons tous, nous ne sommes pas égaux face aux premières lueurs du jour. Entre injonctions sociales, contraintes, recommandations sur le sommeil, à quoi ressemble le matin des gens qui se lèvent tôt? Est-ce un moment magique ou contraignant et éprouvant?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur